Architecture intérieure, regard croisé, le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Regard croisé, architecture d'intérieur. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Regard croisé, l'émission qui donne la parole aux architectes d'intérieur. L'idée, mieux connaître cette profession, savoir quand et comment faire appel à eux, à elles, pour quels avantages. Chaque mois, on décrypte ensemble donc cette profession à travers d'exemples concrets, de rencontres, de projets. Et on innove, hein, évidemment, émission préparée, proposée par Yves Paulet, qui a été très actif. Après les restaurants, après les bureaux, on va faire la connaissance d'une médiathèque. Voilà comment est-ce qu'on peut la réorganiser. On est en compagnie de Laurence Mariotte, architecte d'intérieur. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
Et également d'Olivier Legroux qui était à l'époque le directeur de cette médiathèque dont on va parler. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors depuis, vous avez changé de poste, je le donne, je prends mon élan. Directeur des affaires culturelles et du tourisme à la mairie de Belleville en Beaujolais et à la communauté de communes Saône-Beaujolais, puisque, messieurs, dames, cette médiathèque, eh bien, c'était un projet, un pôle de construction d'un pôle culturel. Et ça se passe effectivement à Belleville en Beaujolais. Qui nous raconte la genèse du projet ? Olivier, on démarre avec vous ?
Allez, démarrons. Ce projet est un projet assez ancien qui a été livré en juillet 2015, mais qui est parti, qui remonte à 2006 en fait. C'est un projet qui est d'abord parti sur un concours d'architectes sur une localisation à côté de l'ancien Hôtel Dieu de Belleville en Beaujolais, qui est un Hôtel Dieu un peu comme les Hospices de Beaune, qui a été fait au 18e. Et puis c'est allé jusqu'au concours d'archi et finalement un peu au dernier moment, la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et les élus de la communauté de communes se sont rendus compte que c'était un peu trop enclavé, trop refermé, qu'il fallait un espace ouvert, visible, accessible à toute la population. Et donc, il y a un nouveau site qui a été retenu à proximité des collèges, des lycées et du centre-ville, bien mieux choisi, bien mieux adapté. Le projet s'est lancé à partir de 2012-2013 avec 2 ans et demi de chantier pour une livraison 2015. L'objectif, c'était plus de faire seulement une nouvelle bibliothèque. Oui. À l'origine, il fallait refaire une nouvelle bibliothèque, et puis finalement, c'est devenu un centre culturel avec un cinéma, un café-restaurant et une médiathèque. Et on va en parler avec Laurence Mariotte, une médiathèque troisième lieu.
Exactement. Alors, on va pas trop vite en besogne. On va déjà rester sur l'avant-projet. Hein. Effectivement, un projet beaucoup plus ambitieux. Cinéma de 2 salles, restaurant, médiathèque, donc un pôle culturel. Avant d'arriver sur l'architecture intérieure, il y a eu l'architecture tout court. Et là, le concours a été gagné par l'architecte Christian Chauvet, hein, Laurence.
Oui.
Oui. Olivier.
Monsieur Chauvet, qui a remporté donc un concours d'architecture. Hein, on lance une demande et puis donc on retient quelques candidats, en général 3 ou 4 maximum. Et donc ils présentent un avant-projet, une esquisse, et ils sont retenus sur cette image où sert cette esquisse. Et c'est Monsieur Chauvet qui l'a remporté avec une architecture très ouverte, très lumineuse. Comme en forme un peu de livre ouvert, je m'avance peut-être un peu, mais enfin, il a une forme triangulaire qui invite vraiment à entrer avec des larges baies vitrées sur la rue pour qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc vraiment une invitation à pénétrer dans le bâtiment.
C'était le cahier des charges, hein, Olivier Legroux, justement, vous le disiez tout à l'heure, de s'ouvrir au monde, hein, d'avoir vraiment quelque chose de très ouvert, où tout le monde pouvait circuler.
Oui. Et il fallait la première image qu'ont les visiteurs est importante, et justement ce que les gens voient en premier est important. Et ça a été un travail avec Laurence Mariotte de se dire il faut pas que les visiteurs aient l'impression d'arriver dans une bibliothèque universitaire avec une armée de rayonnage chargée de livres. Il faut plutôt que les gens aient envie de rentrer et que ça soit pas trop impressionnant. On avait également une contrainte d'inondation. Il fallait que le bâtiment soit construit en surélévation par rapport au risque d'inondation de la Saône. Et finalement, c'est un atout parce qu'on se retrouve à 1,50 m au-dessus du niveau, on se retrouve en légère surélévation et résultat, on est très visible. Je pense que le choix d'implantation du bâtiment et son architecture ont très largement contribué au succès de fréquentation qui a dépassé toutes nos espérances. On s'attendait pas du tout, à la fois pour le cinéma et à la fois pour la médiathèque, à avoir autant de fréquentation. Donc c'est.
Pardonnez-moi Olivier, c'était une création, oui. Vous l'avez dit, ou c'était un remplacement là? Vous étiez parti sur la bibliothèque finalement, le projet était ambitieux.
C'était un remplacement. Il y avait une petite bibliothèque avec 10 000 ouvrages et là on est passé sur 100 mètres carrés. On est passé sur une bibliothèque 10 fois plus grande, 1000 mètres carrés et 50 000 documents.
Très bien. Alors l'idée, c'est évidemment aussi eh bien, d'être original aussi dans sa création. L'objectif, c'est de créer un troisième lieu. Je vais vous laisser expliquer, hein, Laurence et Olivier. Mais en tout cas, l'idée, c'était d'être ouvert justement sur la vie sociale de la communauté. Et puis, comme vous le disiez, faire une place en fait où effectivement, on ne va pas mortellement s'ennuyer, mais on va se rencontrer, essayer de faire une agora où on peut se réunir, échanger de façon informelle.
Alors oui, moi c'est une donnée de base avec laquelle j'ai travaillé. La notion de troisième lieu, c'est une notion qui a été forgée au début des années 80 par Oldenburg, qui était un écrivain, philosophe, hein, qui a écrit, qui disait que il y avait des lieux qui étaient propices à la rencontre, comme les cafés, les magasins, etc. Et que c'est des endroits où vraiment on partage et qui sont vraiment essentiels à la vie, et qu'il existe aussi donc le lieu du travail et le lieu de l'habitation. Mais cette notion de troisième lieu, c'est vraiment aussi la notion de vie sociale, de vie ensemble, et qui est extrêmement importante pour tous.
Dans un troisième lieu, on se sent à sa place. On n'a pas de pression sociale. C'est-à-dire que si vous regardez, il y a certains musées ou certains lieux culturels où les visiteurs se sentent pas forcément à leur place. Ils disent que c'est pas fait pour eux. Par exemple, tout le monde ne va pas à l'opéra et quand on est à l'opéra, on se sent pas forcément légitime. L'objectif, c'est qu'une médiathèque, un centre culturel troisième lieu, tout le monde puisse y aller et se sente accueilli et chez lui. Donc il y a c'est les aménagements intérieurs comptent beaucoup pour faire en sorte qu'on se sente bien. Et c'est ce travail qu'on a développé avec Laurence Mariotte et le cabinet d'architecture intérieure. C'est parce que c'est le diable se niche dans le détail. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bonnes intentions, mais si on ne sait pas le mettre en œuvre, ça marchera pas. Il faut réussir à trouver les bonnes solutions. Et on en parlait avec Laurence tout à l'heure. C'est aussi la théorie du coup de coude, du nudge. De faire des incitations, d'amener des usages, simplement que ça soit intuitif et qu'il n'y ait pas besoin de signalétique, que les gens comprennent pourquoi c'est fait. Quand on voit un canapé, on n'a pas besoin d'un panneau pour nous dire asseyez-vous là.
C'est intéressant parce dans ces médiatiques, dans ces lieux culturels, ils peuvent impressionner aussi un petit peu. Certains peuvent se dire finalement c'est pas pour moi, j'y ai pas ma place. Peut-être certaines catégories sociales peuvent se sentir exclues. Là, l'idée, c'est de les récupérer et de se dire, c'était d'ailleurs la thèse du sociologue Ray Oldenburg, de dire, c'est une agora, c'est un endroit où on peut aller. Il comparait ce troisième lieu comme le pub irlandais, le bar français ou la piazza italienne, un espace où finalement règle une grande tolérance, où tout le monde peut entrer et parler à son voisin. Laurence.
Exactement.
Et moi, je me suis fondue dans cette demande et qui ensuite s'est traduite par une... par aller au bout de l'architecture finalement. Donc on a fini par installer des éléments qui invitent et qui expriment ou qui montrent ce qui va se passer à l'intérieur, en composant tout un tas de mobilier qui travaille sur l'usage, donc bien visible depuis la rue. Et ce sont finalement des meubles dans lesquels on peut se tenir assis, allongé, couché, debout. L'architecte avait énormément travaillé sur le plafond, donc on le voit depuis la rue. Et moi, je me suis beaucoup intéressée au travail du sol, le sol étant l'élément avec lequel l'humain est en contact, vraiment. Et donc, il y a eu ce travail de déformation du sol. C'est le travail, en tout cas, que moi, j'ai proposé à Olivier et à son équipe pour exprimer cette notion de troisième lieu. Et vraiment, on perçoit ça depuis la rue avec des attitudes qui ne sont pas... ordinaires ou qui sont plutôt détendus. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. Peut-être qu'Olivier, par le retour d'expérience, tu peux vraiment dire ce qui s'est passé.
Oui, Olivier, c'est intéressant parce que là, on est allé un petit peu en besogne, mais quand même, au cours des entretiens, vous étiez trois. Et effectivement, c'est cette vision un petit peu du projet qui va emporter l'adhésion du futur directeur de la médiathèque, donc Olivier Legros, avec... voilà ce postulat que vous posez, Laurence. Est-ce que les gens normaux ont vraiment envie d'un endroit toujours mortellement silencieux, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire quelque chose où, voilà, qui est un peu statique, qui peut-être fait peur, qui en rebute certains? Là, vous décidez de casser les codes, c'est ce qui vous a plu, Olivier?
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'imaginaire collectif, une bibliothèque, c'est un lieu silencieux. Là, en fait, il y a que juste les bibliothèques universitaires, les bibliothèques de recherche, avec des scientifiques, des étudiants-chercheurs, qui sont des lieux silencieux. Mais en fait, vous avez la majorité, la très grande majorité des bibliothèques en France et dans le monde, qui sont des lieux de discussion, avec des secteurs jeunesse, avec des enfants qui crient, qui pleurent, qui jouent. Mais on a tous cette représentation dans la tête, et il y a des gens qui, spontanément, quand ils rentrent en bibliothèque, disent à leurs enfants, chut, on a la bibliothèque, faut pas parler. Donc, on leur dit, si, vous pouvez parler, en fait. Pourquoi on s'empêcherait de parler alors que les gens sont en train de discuter, de choisir des livres? Ils sont pas en train de se concentrer. Ce qu'on a fait, c'est que, avec Laurence, on s'est dit que pour ceux qui voulaient travailler, on crée deux salles de travail en silence. Voilà. On a inversé la logique. On peut parler à haute voix de manière intelligible dans 90% de l'espace, et on a 10% des espaces qui sont réservés pour le travail en silence et la concentration.
Donc l'espace a vraiment été, qualifié et traité pour ça, c'est-à-dire que c'est pareil, il faut pas que l'objectif n'était pas que ça devienne un lieu trop bruyant, inaudible et très difficile dans le confort, mais chaque espace a été prévu et conçu pour ça. Donc la grande hauteur sous plafond, elle est aussi intéressante pour ça. Enfin, ce n'est pas parce qu'on parle dans cette médiathèque que ça devient inconfortable. Tout a été calculé un peu pour ça. Hein.
Tout a été calculé. Justement, on parle, tiens, on était en train de parler justement du volume sonore, hein, qu'on peut avoir. Là, il est recommandé, on l'a bien compris. Néanmoins, on se dit, tiens, quand on voit les photos, et c'est vrai que ce plafond, cette grande hauteur sous plafond, elle est très imposante. Au traitement acoustique, ça veut dire qu'on les gens s'entendent, parce que j'imagine qu'il y a des flux de visiteurs, Olivier, très importants. Ça reste quand même agréable, ça fait pas hall de gare, entre guillemets.
Bien au contraire, c'est la très grande surprise. C'était la très grande surprise à la livraison du projet, c'est que on a des volumes importants et on a un traitement acoustique qui est, pour moi, parfait. On peut parler normalement et on n'est pas du tout dans un hall de gare ou une église. On peut avoir différentes activités à différents endroits. On peut même avoir des fois, on organise des concerts à l'intérieur, des petits showcases avec 2-3 artistes. Et on peut quand même avoir des personnes à l'autre bout de la médiathèque qui entendent légèrement au loin le concert. Mais vraiment, le traitement acoustique est très réussi. C'est ce qui fait que les gens spontanément se sentent bien. Sans qu'on s'en rende compte, on se sent bien.
Laurence?
Oui, et je pense que la manière de l'avoir aménagé, c'est-à-dire que la proximité en usage de toutes ces assises fait en sorte aussi qu'on ne se trouve pas dans un grand hall de gare, parce que l'espace n'est pas vide et il est vraiment le mobilier a été réparti pour que il y ait des circulations qui soient organisées. On parlait de cette théorie du Nutsch là qui favorise les déplacements, la manière dont on prend les choses, les manières où on peut se mettre un peu à l'abri, où on se retrouve, où on peut écouter de la musique. Enfin, tout ça est bien sûr un tout petit peu étudié.
C'est un lieu de vie, cette médiathèque, hein, un lieu convivial, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire sur le site, le singulier avec un S, puisqu'il y a plusieurs espaces, lieu convivial où on peut visiter, rencontrer, lire, partager, feuilleter, travailler, voir, écouter, se former, s'initier, jouer. Ça, c'est un beau programme.
Je reparle juste de ce traitement du sol pour les enfants. L'idée, donc, on est dans une partie de la médiathèque, on l'a implantée dans une partie qui était un petit peu rabaissée en termes de faux plafond, qui permet aussi aux enfants de ne pas se sentir dans un espace trop haut pour eux. Enfin, le rapport à l'espace, c'est quelque chose de très important. Et donc, j'ai fabriqué avec Olivier, on a conçu des éléments de sol des pans inclinés. Les enfants peuvent s'allonger dessus, mais peuvent aussi un peu passer dessous. Et donc, on a fabriqué un peu des cabanes où, en fait, le jeu, il est utilisé. L'espace invite au jeu, hein, et ça part encore une fois du sol. Et un peu comme des cabanes, ils peuvent parfois aller un peu dessous, les mamans peuvent venir avec leurs enfants, et on s'assied vraiment littéralement par terre.
Hein. On peut parler d'espace contenant ?
L'espace contenant, il est quand même très ouvert, c'est-à-dire que ce ne sont pas des espaces fermés, donc c'est pour ça que je suis un tout petit peu Je ne sais pas bien comment répondre.
Bon, c'est pas grave.
Tout est fluide dans cette médiathèque.
Alors justement, on va continuer dans l'exploration de cette médiathèque et sur tous ces éléments d'assises dont vous nous parlez, puisque ce projet, vous l'avez conçu avec la posture. Comme on ne veut pas d'un lieu où on s'ennuie extrêmement silencieux, il y a aussi effectivement ces éléments où on peut être debout, assis, attablé, allongé, accoudé, dos à dos, face à face, seul, à plusieurs. Bref, les éléments du décor ont incité justement à ce mouvement.
C'est ça. Et donc, c'est ce qu'on perçoit depuis la rue. Donc, on a enligné le long de la façade tous ces éléments un petit peu atypiques. On en avait parlé un tout petit peu juste avant. Et quand on pénètre au cœur du bâtiment, donc on retrouve aussi cet espace enfant qui est complètement atypique, hein, puisque finalement, ce sont des grands pans inclinés, mais au ras du sol, donc qui est à échelle d'enfant, et qui permet un tout petit peu de jouer, très peu de rayonnage, mais plutôt des petits bacs, qui sont des formes de mobilier sur lesquelles on peut même venir s'asseoir, puisqu'il y avait tout un on utilisait aussi ce soulèvement du sol pour y encastrer ou y ranger un certain nombre de poufs et de fauteuils fabriqués sur mesure avec de la mousse, une mousse qui est revêtue d'un revêtement sur lequel on peut s'asseoir, mettre les pieds, enfin qui est adapté pour ce type d'usage. Et tout a été dessiné sur mesure en fonction de chaque meuble.
Et au niveau des revêtements, vous le disiez, on s'interroge bien sûr, il faut que ça soit facilement lavable, facilement utilisable aussi, puisque c'est un bâtiment qui tous les jours va voir des centaines de personnes, des dos, des fesses qui vont s'allonger, qui vont se vautrer, qui vont jouer bien évidemment pour les plus petits, peut-être pour les plus grands aussi. Du coup, tout ça, il faut que ça soit à la fois résistant mais aussi pratique.
Oui, donc ce qui a été mis en place est un revêtement type sol souple avec une finition un petit peu aiguitée, donc comme une petite moquette. Donc le rapport au sol est particulièrement traité avec un contact un peu doux type moquette, mais néanmoins très facile d'usage puisque ce sont des moquettes qu'on peut laver à grande eau avec une machine spécifique qui tourne et qui nettoie très très efficacement. Donc en termes d'entretien, normalement, il n'y a pas de souci. Olivier, je pense que vous avez déjà fait plusieurs fois du nettoyage.
Je confirme, parce qu'on est à 7 ans, on va arriver aux 7 ans d'existence, 7 ans de fréquentation, donc on a dépassé il y a quelques années, on a dépassé le million de visiteurs, hein, et effectivement ça vieillit très bien. Le sol souple là, Flotex, est très bien, il est sans détergent, ce qui est très pratique. Ce que je voulais dire aussi sur la question des aménagements intérieurs, pour être un troisième lieu, l'idée c'est de pas séparer les publics, c'est-à-dire que on trouve des documents pour les enfants, les adolescents, les adultes dans tous les espaces. Il n'y a pas d'un côté les personnes âgées, de l'autre côté les tout petits, etc. Même l'espace. Alors on a créé un espace toute petite enfance au milieu, mais il est au milieu des autres espaces. L'objectif c'est qu'on puisse en famille, en tant que parents ou en tant que grands-parents, y aller et que chacun trouve de l'intérêt avec des rayonnages qui sont tout à proximité. Donc le travail d'implantation des rayonnages, il y a eu le travail de définition du mobilier, des besoins et le travail d'implantation qui a été mené avec Laurence Mariotte. Et Laurence a prévu aussi, depuis le hall d'entrée, une disposition en étoile pour que le regard puisse filer. Et que quand on rentre dans le bâtiment, on puisse voir l'autre extrémité et en se disant tiens, tout au fond il y a la bande dessinée, de ce côté-là il y a la presse, là il y a des CD, là il y a des livres. Donc voilà, le travail, avant de commencer à dessiner, en fait on a quand même eu 2-3 séances assez intéressantes d'échange avec Laurence, qui est venue sur place aussi rencontrer l'équipe, pour bien comprendre les besoins. Et c'est pas juste on pose des livres, les romans policiers d'un côté, la science-fiction de l'autre, c'est quel public on va avoir, quelle va être la hauteur des rayonnages, quelle sera la hauteur des participants. C'est vraiment aller dans le concret, comprendre l'objectif et l'aménager physiquement, quoi.
Oui, alors moi, j'ai complété cet usage en termes de positionnement, de rayonnage pour des besoins de trouver soit sa BD, soit son roman policier. Mais ce qui nous permettait aussi d'avoir des vues transversales. Et quand on est parent, enfin, les enfants sont aussi au cœur du projet, puisque de toutes parts aussi, on peut jeter un petit œil, mais quand même aller aussi choisir son ouvrage. Donc, il y a une facilité en termes de... Enfin, pour rester libre, il ne faut pas avoir l'esprit et avoir le souci de surveiller un enfant. Mmh. Donc, ça participe vraiment dans la volonté qu'avait l'équipe d'Olivier d'en faire un endroit très libre, très facile à vivre, quoi, et que tout le monde se sente à l'aise.
Ouais, ça c'est voilà. Une très très bonne idée, parce que souvent effectivement ce sont des lieux souvent séparés entre les petits, la section des petits, et puis on traverse une aile pour aller à la section des grands, du coup soit on est obligé d'abandonner ces chères têtes blondes, ce qui est jamais très évident, surtout quand ils sont tout petits. Là au moins on est dans le même espace, c'est ça, on peut surveiller, on peut lire ces journaux, peut-être les quotidiens, tout en surveillant du coin de l'œil les plus petits qui sont en train de jouer.
Absolument.
D'ailleurs, en termes de typologie de fréquentation, il y a une proportion qui se développe d'usagers qu'on appelle les séjourneurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas abonnés en bibliothèque. Ils n'ont pas de carte et ils viennent juste passer du bon temps, lire la presse, se détendre, écouter de la musique, sans forcément s'abonner. Et cette proportion de séjourneurs par rapport aux abonnés, globalement, dans toutes les médiathèques, a tendance à augmenter. C'est un effet des médiathèques troisième lieu, hein, qui se sont développées d'abord dans les grandes villes, mais maintenant dans des communes à taille plus modeste. Et ça montre effectivement que les gens viennent juste pour passer du bon temps. De temps en temps, on voit des personnes âgées qui viennent là pour discuter parce qu'elles se sentent bien. Et voilà, c'est en ça, je trouve que c'est une réussite.
Oui, parce que ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que le premier espace que j'ai eu à ménager, c'est quand on entre dans la bibliothèque, on pénètre par un endroit où on trouve des revues, des journaux, avec des tables hautes et des fauteuils sur lesquels on peut venir boire un café en consultant une revue ou un journal. Donc, il y a eu ce premier espace aussi qui a été traité et qualifié de manière encore un peu différente. Donc, vraiment, en termes d'usage, il y a tout un tas de proposition de facilité. On est à côté aussi d'un espace à moitié d'exposition où on peut montrer. Donc vraiment, cet espace social de rencontre sociale a vraiment été développé, et tout le travail de l'architecture d'intérieur, bien sûr en lien avec l'équipe, s'est organisé dans ce sens-là.
Un lieu stratégique, Olivier, hein, puisque on le sait, hein, cette consultation de la presse, elle est toujours très importante dans les bibliothèques, cet espace où effectivement on peut avoir des séjourneurs ou des abonnés, bien évidemment. Et on l'a vu, puisque les gens ont un petit peu souffert ces derniers mois avec le confinement. Certaines bibliothèques, en tout cas, restreignaient l'accès justement au quotidien pour des raisons sanitaires.
Alors oui, le confinement, ça a été le contre-exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire en médiathèque, c'est-à-dire on avait un lieu d'accueil ouvert, accessible à tous, avec très peu de règles, en tout cas très peu de contraintes. Il y a des règles, mais il n'y a pas de contraintes affirmées très fortement. Là, on s'est retrouvé avec des plexiglas, des masques, des périodes de désinfection des livres, etc. Donc en ce moment, on est en train de revenir à une situation normale, et c'est bien mieux. Puis alors évidemment, les restrictions d'accès avec les contraintes de passe et tout, et ça nous a permis en creux, en négatif, de se rendre compte de ce qu'on avait avant, et de se dire finalement on a eu l'impression là pendant un an et demi de revenir à une bibliothèque des années 60. Alors pas complètement, parce qu'on a quand même pu remettre en place les jeux vidéo, on a rajouté des jeux de société aussi depuis l'ouverture. On a une section jeux de société qui s'est développée pour jouer sur place uniquement, et là on est en train de revenir à un mode de fonctionnement plus normal, et les gens sont contents.
Oui, parce qu'il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, c'est que dans cet esprit un petit peu de liberté, on s'est aussi beaucoup attaché à la modularité, au fait qu'on puisse dans le temps faire évoluer les choses. Donc chaque mobilier est démontable. Alors il y a des gros morceaux, comme on dit. Il y a des meubles qui font presque 4 mètres de haut, je crois, mais qui sont démontables. On avait aussi travaillé dans ce sens-là pour tout ce qui était rayonnage, où tout est démontable, et où on a fait attention de tout tester au préalable pour bien vérifier tous ces aspects de démontabilité et de flexibilité. Je crois qu'Olivier, vous avez d'ailleurs un petit peu modifié des implantations, et que vous avez pu vous rendre compte que c'était une partie importante du travail qui vous a bien servi.
Oui, oui, le fait d'avoir tout le mobilier sur roulette, c'est pratique. On est déjà sur la version 3 de l'implantation du mobilier, parce que donc on a rajouté les jeux de société, parce qu'on est en train de transformé. On a déplacé aussi la zone d'écoute musicale. Prochainement, on va accueillir une micropolis, c'est-à-dire un musée numérique avec la Cité des sciences et de l'industrie, la Villette. Et donc, la salle Tangerine, la salle avec les gradins, qui est la salle de projection, va également servir pour ce musée numérique, avec la projection en haute définition des œuvres des musées nationaux et puis des conférences en ligne sur le sujet. Donc, on savait qu'on construit pas une bibliothèque de manière statique pour avoir la même offre de service pendant 30 ou 40 ans. On sait que de toute façon, ça va évoluer. On voit en 7 ans que ça a déjà évolué et ça va encore. Alors, ça va évoluer. Ça a évolué aussi avec le Covid, mais là, ça va évoluer avec le musée numérique Microfolie. Et puis, on va passer sur un système d'automate de prêt pour que les gens soient plus libres et qu'il n'y ait plus cette grande banque d'accueil qui est, je trouve, un obstacle dans la relation entre le bibliothécaire et l'usager et le lecteur. Il faut plutôt. On discute plutôt dans les rayonnages avec les bibliothécaires en train de faire du rangement, du conseil, que à la banque d'accueil quand on prend ses documents. Donc, il fallait un équipement évolutif et Laurence l'a conçu comme ça, ce qui est très pratique parce que effectivement ça évolue et je pensais pas que ça évoluerait aussi rapidement.
Ouais, si, les usages bien évidemment, donc modulaire, évolutif, de manière à transformer ce tiers-lieu. En tout cas, on sent que c'est un lieu mouvant, hein, en permanence évolution.
Ouais, c'est une belle évolution. Et alors, ça nous a tous surpris, c'est-à-dire que quand on fournit un service de qualité, ça fonctionne, le public est au rendez-vous. Pour le cinéma, on avait une étude de marché qui nous annonçait 45-46 000 entrées par an la première année. On est monté à 95 000 sur deux écrans. Et puis depuis 5 ans on tourne entre 90 et 103 000. Pour la médiathèque, on est monté jusqu'à 8 000 abonnés. On a atteint les niveaux des médiathèques de Mâcon et de Villefranche. On s'attendait pas à ce niveau, j'allais dire, de performance, de fréquentation. Oui. Et l'implantation, les choix architecturaux extérieurs et intérieurs ont vraiment joué leur rôle à fond dans ce succès.
Comme quoi, le beau, le bien conçu, ça marche. Hein, c'était une de mes questions, bien évidemment. Est-ce que vous arrivez à drainer, justement, vous êtes sorti, j'allais dire, de votre zone de chalandise, hein, vous êtes sur une communauté de communes. Est-ce que, du coup, il y a des gens qui acceptent de se déplacer un petit peu plus loin pour venir exprès découvrir soit les médiathèques, soit le cinéma, soit le restaurant?
Oui, alors la zone de chalandise, si vous voulez, il y a le ressort territorial de la communauté de communes, et puis il y a la zone de chalandise avec les effets de frontière dont les usagers n'ont pas grand chose à faire. C'est-à-dire qu'on a on a une zone de chalandise qui déborde sur le département limitrophe de l'Ain en traversant la Saône. On n'est pas non plus structuré comme un équipement à vocation régionale, comme une salle de concert ou un théâtre qui peut accueillir, qui peut drainer des gens à 30-40 kilomètres. On est sur un service de
bien
proximité.
Sûr. On rappelle, Olivier, la communauté de communes Saône-Beaujolais, là, ça représente combien de communes, combien de personnes?
Saône-Beaujolais, c'est tout le nord du département, c'est la communauté de communes au nord du département du Rhône, limitrophe avec l'Ain, la Saône-et-Loire et la Loire. On a 35 communes, 45 000 habitants. Ça comprend le Beaujolais viticole avec les 12 crus du Beaujolais. Et puis le Haut Beaujolais, qui est un espace de moyenne montagne sylvicole, forestier. Donc on est sur un territoire. Et on fonctionne en réseau, c'est-à-dire que la bibliothèque, on est à la tête d'un réseau de 11 bibliothèques avec une circulation de documents. Donc vous prenez un livre à Belleville en Beaujolais, vous le rendez à Quincier en Beaujolais, vous le rendez à Beaujeu, Fleury, etc. Et ça, c'est un système qui marche bien. On peut avoir du service public culturel en milieu rural dans le cadre d'une intercommunalité. Et que ça fonctionne.
Extrêmement intéressant. Je reviens à vous, Laurence, hein, puisque vous êtes membre du pôle Action des architectes d'intérieur à Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on a vu, hein, on l'a largement commenté, que c'était bien conçu, c'était modulaire, c'était innovant, ce tiers-lieu, ça fonctionne. Est-ce que, du coup, dans vos autres réalisations, ce sont des concepts qui ont essaimé, que vous avez utilisés ailleurs?
Alors non, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs médiathèques. Alors il y a toujours une partie, on a l'habitude de trouver un espace un petit peu polyvalent, mais il y a encore, le parti pris de vraiment faire un 13e lieu, je rappelle encore une fois, on peut venir manger dans cette médiathèque et donc écouter de la musique, on est vraiment dans une utilisation qu'on ne retrouve pas dans toutes les médiathèques, hein, ou qui sont plus sectorisées, on va dire, même si on essaie d'ouvrir. Mais vraiment, c'est à Belleville que j'ai développé de manière plus... Enfin, c'est vraiment très fort à Belleville, quoi.
Oui, on voit que c'est.
Et puis l'équipe
c'est
était vraiment partie prenante. On a fait un vrai travail de collaboration. Enfin, ça fonctionne aussi parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Hein. Olivier parlait de ces réunions de début de projet, c'est-à-dire que finalement, on a développé ensemble le programme. C'est vraiment, ça a vraiment été un travail de collaboration et. Et voilà, quand on parle bien et qu'on travaille bien ensemble, on arrive à des choses qui fonctionnent vraiment bien.
Oui, on sent que ça a phosphoré. Pardon, on sent que ça a phosphoré. Voilà. Vous définissez comme évidemment architecte d'intérieur CFAI, mais également consultante en créativité. Le dialogue, voilà, le pré-projet, on a l'impression que ça, non seulement c'est important pour vous, mais dans ce projet tout particulièrement, et Olivier va nous le confirmer, on sent que c'est ce qui a joué hein, pour qu'il y ait un bon fit, comme on dit, entre vous deux, et finalement que, voilà, on puisse avoir ce bouillonnement créatif.
Oui, moi j'ai développé depuis des compétences en innovation et en intelligence collective, donc qui reposent essentiellement sur écouter, l'écoute des idées de tous pour arriver à régler une problématique ou à vraiment trouver des bonnes solutions, et parce que les idées et les bonnes pratiques ne sont pas l'apanage que d'une seule personne ou d'une seule demande. Et donc, on avait déjà vraiment travaillé dans ce sens-là avec l'équipe d'Olivier. Je me souviens de ces réunions où les réunions duraient des demi-journées, voire des journées entières, hein, parfois.
Olivier, vous confirmez là cette notion voilà, d'interactivité, mais plus que ça, on a l'impression de véritables sessions créatives.
Oui, ça a été ça, c'est-à-dire que on a fait se rencontrer des professionnels des bibliothèques et de l'architecture d'intérieur avec Laurence Mariotte. J'avais notamment dans l'équipe un collègue qui avait déjà fait 3 ouvertures de médiathèques, Reims, Narbonne et Oullins. Donc pouvoir réfléchir et avoir l'expertise d'usage de professionnels, c'est important pour vous. Comprendre les flux d'usagers, les nécessités techniques du bâtiment, les nécessités de circulation du document, parce qu'en fait, il faut imaginer qu'une bibliothèque, une médiathèque, c'est un centre de logistique avec des milliers de documents. On a certaines journées où on a un flux de documents entrants et sortants à peu près au niveau de 3 800-4 000 documents. Donc il faut traiter 2 000 documents au retour, les reclasser, les ranger et les faire ressortir. C'est finalement un peu plus complexe que de la logistique, parce qu'un centre de logistique, les documents arrivent et sont expédiés là, on les retraite en permanence et il faut que ces flux-là ne viennent pas perturber le flux des usagers, et ça se fait au milieu du public sans que le public soit gêné. Donc on a mis en place aussi des systèmes de boîtes de retour 24/24. Et puis, et ben là, la réflexion qui est en cours actuellement sur l'évolution du flux des documents, c'est un sujet. Donc, c'était intéressant d'avoir. Moi, j'ai assisté. Alors, je dis pas que j'étais spectateur de ça, mais j'ai assisté et animé les discussions entre l'architecture d'intérieur et les bibliothécaires pour réussir à comprendre les usages, les incontournables, les fonctions indispensables, et puis les intentions et comment traduire les intentions physiquement. Et c'est le travail qu'a fait Laurence Mariotte de nous dire, ok, ben vous souhaitez atteindre ça, moi je vous propose telle solution.
Oui, d'autant qu'on a parlé beaucoup de l'usager, donc de la personne qui pratique la médiathèque, mais on a aussi fait un travail pour les personnes qui y travaillent, et c'est toujours une partie aussi importante de notre intervention, c'est-à-dire qu'on a aussi créé, bien sûr, les bureaux des bibliothécaires, le bureau, bien sûr, du directeur, les salles de rencontre, le petit endroit où on peut venir déjeuner tranquillement. Enfin, il y a toute cette partie-là aussi qui a été vraiment travaillé avec l'équipe. Hein.
Et oui, c'est important, bien évidemment, de penser au public, mais également à ceux qui travaillent au jour le jour et qui ont cette lourde tâche d'animer, évidemment, ces centres, ce tiers-lieu. En tout cas, félicitations, on voit que ça fonctionne. Un grand merci à nos deux invités du jour, Olivier Legroux. Je rappelle que vous êtes directeur des affaires culturelles et du tourisme à la mairie de Belleville en Beaujolais et à la communauté de communes Saône-Beaujolais. Merci, Laurence Mariotte. Je rappelle que vous êtes architecte d'intérieur, donc CFAI, membre du pôle action des architectes d'intérieur Auvergne-Rhône-Alpes, pour voir vos différentes créations, site internet mariottelaurence.com, tout simplement. Un grand merci également à Arif Poilet qui a préparé cette émission. Regard croisé, je vous rappelle que c'est une émission conçue, proposée par le pôle action des architectes d'intérieur. Merci, mesdames et messieurs, Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Regard Croisé Architecte d'Intérieur. À très bientôt.
Architecture intérieure, Regard Croisé, le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Coustet.